Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous, toujours coup double, oui, ça commence à 18h, en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, ou alors on attend 22h minuit parce qu'on passe à la radio, oui, comme les autres. Ce soir, rendez-vous à Hong Kong. Où en est-on de la crise avec Pékin après 2 mois de manifestations chaque semaine? Quel avenir pour cette enclave démocratique? À quel jeu jouent les Chinois? Macao ne bouge pas, Shenzhen deviendrait-il le nouvel Hong Kong sous contrôle? Et puis on n'oublie pas, bien sûr, que c'est le 70e anniversaire de la République populaire de Chine. On va parler de tout ça, Christophe Bourseiller, avec nos invités. Un titre peut-être, plusieurs.
J'en avais plusieurs, j'en avais des très bons. Vous auriez pu les mettre quand même, je trouve. Vous voyez, Hong Kong contre King Ping, qui va l'emporter?
Pas mal.
Ouais. Sinon, j'avais Hong Kong-Pékin, ça va mal finir. Pour l'interrogation, ouais. C'est plus banal. Hong Kong-Pékin de Caribe dans Silla. Ça, c'est pour les littéraires. Ouais. Et Hong Kong-Pékin, Maréchal, les voilà.
Alors ça, c'est rien à voir. D'accord, parfait. Programmation live, Marion Guilbeault.
On connaissait les couples, on connaissait les groupes. Et aujourd'hui, on va recevoir un trouble dans le NRV. Il s'appelle Fer. Il joue, paraît-il, de la Gaulle Wave. Explication en live à la fin du débat, Laurent.
Un trouble et la Gaulle.
Voilà.
Je vous félicite.
C'est bien.
Et puis, ce sera le NRV la suite pour une semaine de dossier 100% France Inter. Aujourd'hui, dernier épisode de France Inter, plus de Toni Morrison, première écrivaine afro-américaine, prix Nobel de littérature en 93, mais aussi éditrice qui avait publié notamment la biographie d'Angela Davis en 74. Et bien c'est tout l'enjeu de « Ça peut pas faire de mal » de Guillaume Gallienne. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
La crise à Hong Kong, Pékin, un jeu de qui perd gagne, on en parle ce soir avec nos invités. Alice Ekman, je vous présente, vous êtes géopolitologue, responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. C'est bon, je rajoute quelque chose?
C'est parfait.
C'est parfait. Sunny Chan, vous êtes humoriste, bien connu des auditeurs de France Inter, période « On va tous y passer ».
Oui, ouais. Quelle retrouvaille.
C'est clair et court.
Et court. Vous êtes né à Hong Kong. Vous avez donc un point de vue personnel sur la question. Gilles Fontaine, vous êtes rédacteur en chef de Challenge et vous co-signez Il est midi à Pékin chez Fayard. Il faut attendre un peu parce que ça va sortir le 11 septembre prochain.
Voilà, on aura l'occasion de s'en reparler.
Exactement. Et François Bougon, vous êtes journaliste au Monde et votre dernier livre nous a bien aidé pour mesurer les enjeux de la situation. La Chine sous contrôle au seuil. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Christophe Bourseiller,
oui.
Un commentaire, un édito peut-être.
Un édito, allez. Bah, si vous voulez, si vous insistez, je vais vous le faire. Laurent, vous qui avez beaucoup de mémoire, et ça c'est une de vos grandes qualités, vous souvenez-vous de notre émission de lundi? Nous avons évoqué à cette époque-là la thèse brandie par certains écologistes. Je refais l'émission d'avant, hein,
oui.
Selon laquelle la fin du monde est prévue en 2030. Eh bien, les habitants de Hong Kong vivent en permanence, Laurent, avec l'idée selon laquelle leur monde est condamné. Depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, les habitants ont enclenché un compte à rebours, sachez-le. Mieux encore, la fin de leur monde est prévue en 2047. 2030, 2047, vous voyez, c'est ça les fins du monde. Dès lors, vous imaginez, Laurent, l'état d'esprit des Hongkongais. Ils vivent depuis toujours dans un Berlin-Ouest folklorique et clinquant, assiégé par une Chine continentale qui aimerait les faire rentrer dans le rang. Ben, il faut bien le reconnaître, qu'est-ce qui sépare en réalité aujourd'hui Hong Kong du reste de la Chine? Dans tous les cas, c'est le business qui règne, le capitalisme sauvage, les hyper-riches et les super-pauvres. Mais à Hong Kong, il y a 25 grammes de plus, c'est le poids léger de la démocratie, Laurent. Alors, la Chine qui fut maoïste peut-elle tolérer une enclave dissidente et une presse libre? Alice Ekman, je commence par vous, à cause des rollers peut-être. Le gouvernement...
Elle est venue en roller, je signale, parce que les gens ne sont pas censés savoir qu'elle avait des rollers jaunes à trois roues.
Ah, et surtout, ils sont
ce sont les plus chers.
Ce sont les plus intéressants. Alice Ekman, le gouvernement de Pékin, peut-il être tenté, selon vous, dans le contexte actuel, de recourir à l'armée?
C'est difficile pour eux parce qu'ils ne peuvent pas contrôler la situation de la même manière qu'ils contrôlent en Chine continentale. Parce qu'il y a une culture politique à Hong Kong qui est différente. Vous l'avez dit, les Hongkongais ont grandi dans un contexte démocratique où il y a une liberté d'expression. Il y a aussi déjà des manifestations qui représentent une menace pour la Chine et ils ont peur d'un effet domino sur la Chine continentale. De manière générale, compte tenu à la fois du statut particulier de Hong Kong, qui reste normalement en place jusqu'à 2047, même si aujourd'hui il y a des inquiétudes sérieuses au sein d'une partie des populations chinoises, mais compte tenu de ce statut, et aussi compte tenu de la culture politique d'une grande partie de la population hongkongaise, Hong Kong ne peut pas gérer comme il le souhaite les tensions localisées à Hong Kong, en tout cas pas de la manière dont ils le feraient dans le Xinjiang, à Pékin, à Shanghai ou ailleurs.
Donc toujours pas d'intervention armée, alors même que l'on voit des images de régiments de à Shenzhen, par exemple, ou de durcissement. François Bougon ?
Non, en fait, je pense que, là je rejoins Alice, je pense que pour l'instant, c'est une option possible, bien évidemment, mais à mon avis, c'est l'option ultime, c'est vraiment l'arme nucléaire. Et en fait, avant, ils ont énormément de possibilités qui passent en particulier par les outils mis à disposition de l'exécutif hongkongais. Alors après... Quand vous évoquez la démocratie à Hong Kong, c'est pas une démocratie, c'est tout le fond du problème. C'est-à-dire que c'était une colonie britannique qui a été remise à la Chine, donc c'était un territoire chinois, mais ça n'a jamais été une démocratie. Est-ce que ce que les Chinois avaient promis, c'était de faire en sorte qu'il y ait une véritable démocratie? Et donc, en fait, c'est ces engagements-là aujourd'hui qui ne sont pas tenus, et c'est pour ça, si on veut caricaturer, que les gens, une grande partie des Hongkongais manifestent.
Vous êtes d'accord avec cette analyse, Sunny Chan, vous qui êtes né à Hong Kong
et qui êtes très en contact avec ce qui se passe là-bas?
Oui, j'adore les rouleaux de printemps.
C'est ça.
En fait, l'armée n'est pas encore à Hong Kong. Sauf que la police hongkongaise, c'est sérieusement dénaturé. On retrouve des policiers sans numéro identifiant sur l'uniforme, c'est du jamais vu. Et on a aussi des policiers qui ne parlent pas notre dialecte, dont on se demande vraiment d'où il vient. Est-ce que ce n'est pas l'armée chinoise qui s'est infiltrée dans la police hongkongaise?
Les paramilitaires.
On peut dire. Et puis la violence est quand même inouïe. Il y a des vidéos tous les jours où on voit des arrestations très musclées, où on voit carrément des policiers qui cassent le bras. Qui cassent le bras des manifestants, et aussi des filles manifestantes harcelées sexuellement au commissariat, en toute impunité. Hier, il y a eu un rassemblement, un peu en parallèle avec cette idée de MeToo, et il y a eu plein de témoignages de manifestantes, jeunes femmes arrêtées, qui ont subi des attouchements. C'est très grave.
Gilles Fontaine.
C'est la plus grosse, évidemment, la plus grosse manifestation et la plus longue aussi, hein, depuis la rétrocession, sans commune mesure avec la révolte des parapluies il y a 5 ans, où effectivement, là, on avait en plus un environnement, en tout cas du côté des manifestants, qui était beaucoup plus pacifiste, puisqu'ils s'occupaient on parlait d'occupation de rue. Là, de part et d'autre, il y a une violence qui s'est déclenchée pratiquement.
Il y a de nouveau des parapluies. Alors pourquoi des parapluies d'ailleurs?
Alors moi, l'explication que j'aime, il faut demander ça aux grands spécialistes, mais une des explications, c'est que ça c'est fait pour repousser. Alors il pleut régulièrement à Hong Kong à certaines périodes de façon très forte, mais c'est aussi pour éviter de se prendre les grenades lacrymogènes, pour repousser les grenades lacrymogènes.
Gaz lacrymogène périmé, qui devient toxique. Mmh. C'est intéressant à noter.
Et là où la situation est un petit peu, même très différente, par rapport à il y a 30 ans et les événements de Tiananmen, c'est qu'on est, enfin, Sony l'a bien souligné, on est en phase directe avec tout ce qui se passe là-bas. Les manifestants diffusent quand même beaucoup d'images, il y a beaucoup de blogs, de témoignages, ce qui fait qu'on arrive à comprendre sans que l'information soit très trafiquée, même si on sait que du côté du gouvernement et de Pékin, on a créé des milliers, des dizaines de milliers de comptes, de faux comptes sur Twitter, sur Facebook.
Alors, qui croire? Parce qu'on voit des images qui sont effectivement qui viennent des Chinois, dans lesquelles on voit des policiers assiégés par des types avec des barres de fer qui leur tombent dessus. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a parmi les manifestants aussi des gens violents, un peu, j'allais dire presque un peu black bloc? Est-ce que c'est le cas à Hong Kong ou pas?
Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a d'une part, il faut pas oublier qu'il y a une stratégie de la tension qui est mise en place par Pékin, c'est-à-dire, on le voit encore aujourd'hui, par exemple, il y a eu le changement de la garnison à Hong Kong. Et ça a donné lieu à un déploiement de force, et notamment une vidéo très hollywoodienne avec de la musique diffusée dans les médias nationaux chinois. C'est destiné avant tout à faire peur aussi, c'est-à-dire à dire aux gens, attention, regardez, on peut avoir recours à la force. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir recours à la force forcément. Et d'autre part, oui, il y a de la violence aussi parmi les manifestants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opposition, ce qu'on peut rappeler l'opposition, enfin les gens qui manifestent, bon, en gros, vous avez deux ailes. Il y a l'aile pacifiste, ceux qui se considèrent comme étant pacifiques, et puis les autres qui se considèrent comme étant des violents. Alors, en anglais, certains les appellent les frontliners. je sais pas comment on dit en cantonais, mais en chinois, c'est les braves, les Yongwu. Et en fait, vous avez forcément ces tensions au sein de l'opposition. Ce qui est important aujourd'hui dans l'opposition, notamment à la loi d'extradition, c'est que ces deux parties-là font attention à ne pas se scinder. Donc, à rester unis.
Donc, il y a une violence aussi des deux côtés, si je comprends bien.
La violence d'État, la violence policière, elle est présente. La violence des manifestants, on peut essayer de la comprendre aussi.
Moi, j'ai rarement vu une manifestation de 2 millions de personnes sans une vitre cassée. Pas une seule vitre cassée. Des boutiques, je parle.
Mmh. Et Sekhmen, je vois un sourire sur vos lèvres se dessiner.
Non, il y a une évolution depuis plusieurs années, parce que ce n'est pas les premières manifestations dans la rue à Hong Kong. Hein. Il y a eu en 2004, il y a eu il y a 2 ans, pour différentes raisons. Hein. Il y a quelques années, c'était pour le mode de nomination du chef de l'exécutif, puisqu'il n'est pas au suffrage universel direct. Il y a donc une mobilisation croissante, et c'est vrai que nous ne sommes jamais arrivés à ce point-ci aujourd'hui, en termes d'ampleur de la mobilisation, mais aussi d'agrégation des revendications. Parce qu'au départ, cette manifestation, qui est toujours constatée aujourd'hui et qui aura probablement encore lieu dans les prochains jours, elle est liée à une loi, un projet de loi pour extrader les Hongkongais en Chine, donc c'est-à-dire une harmonisation progressive du système juridique hongkongais avec celui de la Chine.
Ça pourrait même toucher des non-hongkongais.
Jusqu'à présent, le système juridique est très différent. Il y a une basic law, c'est-à-dire une mini-constitution locale, etc. Donc c'était une revendication très précise, mais comme les manifestations se prolongent et les tensions sont vives et aussi les différences de perception, encore une fois, politiques et historiques sont très fortes, elles s'agrègent et donc les revendications antérieures sur le mode de nomination, d'élection de l'exécutif reviennent au devant de la scène. Et plus généralement, un ensemble de revendications quant au degré de liberté, au maintien du degré de liberté qui reste plus fort à Hong Kong jusqu'à présent que sur la Chine continentale. Donc il y a une agrégation des revendications qui va être très difficile à gérer pour Pékin. Et il y a aussi un deuxième développement très intéressant, c'est l'internationalisation de la crise.
Exactement, oui.
Puisque Donald Trump, au début, était assez, on va dire, doux, en tout cas précautionneux dans sa couverture, ou en tout cas ses tweets liés à Hong Kong, ce qui est assez rare. Il disait que c'est une affaire entre Hong Kong et Pékin. Depuis, il dit que ça serait difficile pour lui, il a dit ça le 19 août dernier, difficile pour lui de négocier un accord commercial si Pékin se comportait de manière violente vis-à-vis des manifestants. Donc il y a finalement une évolution, une internationalisation de la crise. Il y a bien sûr le G7 avec un communiqué conjoint qui a été perçu très négativement par Pékin. Il y a surtout Taïwan, la question de Taïwan qui est très intéressante, puisque qu'est-ce qui est en cause aujourd'hui, là, qui est en question ? C'est le concept « un pays, deux systèmes ». C'est-à-dire que quand la Grande-Bretagne a rétrocédé Hong Kong à la Chine, ils ont dit « ok, on vous le rétrocède pour 50 ans, à condition que le statut particulier politique juridique de Hong Kong soit maintenu ». Et donc, c'est-à-dire, c'est le concept d'un pays, où il y a un pays, Hong Kong est de facto sur territoire chinois, mais deux systèmes qui cohabitent sous ce territoire. Et donc ça, c'est de facto le concept qui est mis en place, mais des inquiétudes aujourd'hui se développent à Hong Kong sur la réelle volonté de Pékin de maintenir ses engagements, de maintenir ce statut d'un pays de système. Et Xi Jinping, ça c'est très intéressant parce qu'il y a un lien direct avec Taïwan. Xi Jinping avait dit au début de l'année, pour Taïwan, à l'avenir, le concept idéal sera un pays de système. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen au pouvoir actuellement a dit: la question hongkongaise montre bien que le concept d'un pays de système n'est pas légitime, n'est pas la bonne voie à suivre pour Taïwan. Et la présidente taïwanaise a vraiment soutenu aujourd'hui les manifestants hongkongais dans ce qu'elle appelle un élan démocratique. Donc on a vraiment une tension localisée qui s'internationalise et qui continuera probablement à s'internationaliser pour deux raisons. Parce que tout d'abord, il y a des élections à Taïwan en janvier 2020. Et puis, parce que les tensions entre Washington et Pékin demeurent très fortes et se cristallisent sur une diversité de points de tension dans la région.
Oui, mais alors les tensions ne cessent d'augmenter, mais alors comment on peut sortir de cette crise ? Comment vous voyez justement l'évolution de la situation, Sunny Chan ? Qu'est-ce que l'on peut espérer ? Qu'est-ce que les Hongkongais espèrent de leur côté ?
Je pense que là, on est vraiment dans une lutte à long terme. Hier ou ce matin, il y a des communiqués officiels comme quoi c'est la faute de l'éducation hongkongaise. On n'a pas appris aux Hongkongais d'être patriotiques. Donc, en fait, ils vont déjà changer notre système d'éducation. Donc, il faudra chanter l'hymne national. Alors, aussi, il y a des consignes données aux professeurs. Lorsque les élèves posent des questions sur les manifestations, il est recommandé aux enseignants de dire « je ne sais pas ». Voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, le ton est donné. Il n'y a plus de place à ceux qui ne cautionnent pas avec le parti politique. Il n'y a plus de place. Vous perdez votre job. Vous pouvez même pas rentrer chez vous. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a des résidents d'un quartier qui sont descendus dans la rue parce qu'ils étaient très agacés par les policiers. Et d'un coup, le digicode a changé, par miracle, et ils pouvaient plus rentrer chez eux.
Ah ouais.
Voilà. Et tous ces gens-là ont été arrêtés et encerclés par la police. Donc, on arrive à ce point.
Mmh. Jules Fontaine, vous connaissez cette situation ?
Pour revenir sur les échéances, il y a quand même une échéance qui est importante pour Pékin, pour la Chine, c'est le 1er octobre, le 70 ans de la République populaire de Chine, et puis dans la foulée, l'an prochain, les 100 ans du Parti communiste chinois. Donc on peut imaginer qu'à Pékin, on aimerait bien que l'ordre revienne assez rapidement, puisque l'idée c'est quand même qu'on puisse ensuite ouvrir ces célébrations dans un environnement pacifié.
Et donc, ils peuvent faire des concessions ?
Je suis assez d'accord. En tout cas, je rebondis sur ce que dit Sonny sur l'histoire du contrôle. C'est-à-dire que plus besoin d'envoyer, à la limite, plus besoin vraiment d'envoyer des chars aujourd'hui. On le sait, la Chine est un des pays les plus contrôlés, surveillés, filmés, enregistrés au monde. Il y a je ne sais plus combien de dizaines ou de centaines de millions de caméras de télésurveillance partout. Les technologies de reconnaissance faciale, les Chinois ont des années-lumière d'avance sur tous les autres pays américains, européens, etc. sur ces questions-là. Facile, effectivement, de hacker des immeubles, de reconnaître les gens à distance, même bâillonner.
Mais même à Paris.
Donc, comment ça, même à Paris, Sonny Chan ?
Avec les Hongkongais, on a fait des rassemblements et on a été attaqués, agressés par des soi-disant patriotes chinois avec leur grand drapeau. Et il y a des journées très précises où les Hongkongais sont systématiquement attaqués sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement bien organisé. Donc ce n'est pas parce que je vis à Paris que je peux aisément te dire.
Vous êtes protégé. En fait, vous êtes aussi exposé, même à Paris.
Absolument.
Et il y a en tout cas des techniques aujourd'hui qui permettent effectivement aux services de renseignement chinois de procéder à des arrestations discrètement, pour le coup, hors des caméras, et d'interpeller des gens qui auront été identifiés sur des images durant les affrontements avec les forces de l'ordre.
Hong Kong s'accroche à son rêve. Emmanuel Seignier les chante. Oui, je sais, c'est une transition un peu difficile. Ah oui, Dreams avec The Liminianas, c'est le nouveau projet musical, l'épée. We'll be right back. Dreams, premier titre du projet L'Épée, en concert près de chez vous le 15 décembre à la Cigale à Paris. La programmation rêvée, bien sûr, de Jean-Baptiste Audibert.
Aujourd'hui, il y a Hong Kong qui se réjouit. Mais sous la tour de la Banque de Chine, il y a aussi Hong Kong qui s'inquiète. Une véritable foire aux associations militantes qui profitent de leurs derniers instants de liberté d'expression. Malgré le statut spécial dont bénéficiera Hong Kong, le nouvel exécutif a bien prévenu. Demain, les manifestations de nationalistes taïwanais seront interdites. Il sera sacrilège d'évoquer la répression chinoise. Ce groupe, lui, a décidé de symboliser Hong Kong par des poissons morts.
Est-ce que vous vous inquiétez pour l'avenir de Hong Kong ?
Bien sûr. En fait, oui.
Pourquoi ?
Pourquoi ? C'est simple. On ne peut pas parler comme on veut.
On ne peut pas parler comme on veut, c'est un document de France 2 du 30 juin 97, c'est-à-dire juste avant la rétrocession du 1er juillet. On va revenir sur cette histoire et s'interroger sur l'avenir de cette enclave démocratique avec vous, Christophe Bosseiller, et nos invités, Alice Ekman, géopolitologue, Sonny Chan, humoriste né à Hong Kong, et puis deux journalistes spécialistes de l'Asie et de la Chine, bien entendu. Gilles Fontaine de Challenge et François Bougon du Monde. Vous reprenez la main, Christophe?
C'est incroyable quand on écoute ce document, parce qu'on s'aperçoit qu'à la veille de la rétrocession, donc du moment où les Chinois allaient mettre la main en quelque sorte sur Hong Kong, il y avait le sentiment dans la rue hongkongaise que c'était déjà fini la démocratie. Or, on est maintenant en 2019 et au fond, on peut bien dire que la démocratie a quand même perduré plus ou moins à Hong Kong et qu'au fond, c'est toujours le même débat, la même question. Est-ce que les Chinois vont tout détruire? François Bougon.
Non, en fait, il faut se rappeler que en 97, ça intervenait après le massacre de Tiananmen en 89. Donc, il y a eu beaucoup de peur à l'époque, juste après la répression. C'était 5 ans après l'accord avec la Grande-Bretagne. Donc, c'était l'idée que la Chine de Tiananmen, celle qui avait réprimé dans le sang les manifestations,
allait
envahir Hong Kong et allait mettre à bas justement tout ce qui avait fait la spécificité du Hong Kong, notamment l'état de droit. Ça s'est pas passé comme ça parce que les Chinois étaient très pragmatiques à l'époque, le sont toujours d'une certaine manière, et ils ont compris l'importance qu'avait Hong Kong pour le développement futur de la Chine. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que ces inquiétudes sur la démocratie, ils sont nourris par une série d'attentes déçues, notamment sur, par exemple, l'élection du chef ou de la chef de l'exécutif au suffrage universel, sur une meilleure représentation.
Carrie Lam,
voilà. Donc tout ça, ça a été tous ces engagements que Pékin avait pris. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était des promesses qui n'ont jamais été tenues. D'où la frustration aujourd'hui des Hongkongais.
Gilles Fontaine.
Moi, je pense qu'il y a aussi une place. Quelle place occupe Hong Kong aujourd'hui par rapport à 1997 et 1998 ? Il y a une ville champignon qui a poussé juste au nord, qui s'appelle Shenzhen.
On en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui.
Et dont le PIB est à peu près équivalent à celui de Hong Kong aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a aussi ces incertitudes-là par rapport à la population. C'est combien la population de Hong Kong ? 7-8 millions d'habitants. Shenzhen, c'est 17 millions d'habitants. Malgré tout, d'un point de vue économique et financier, Hong Kong reste une place extrêmement importante. C'est probablement la 5e place financière aujourd'hui dans le monde, mais c'est plus comme auparavant le 2e port porte de containers de la planète, comme ça l'était au moment de la rétrocession.
Mais est-ce que c'était pas quelque chose dont la Chine avait besoin aussi, d'avoir cette espèce d'énorme poumon financier qui nourrissait le reste du continent?
Et Hong Kong aujourd'hui est un peu un confetti au milieu de l'Empire. Là, c'est plus du tout le même Hong Kong flamboyant qu'on pouvait connaître au début des années 90.
Et Sekman.
Ça reste une place financière incontournable, mais qui n'est plus l'unique, en effet, avec une concurrence renforcée. Les tensions que l'on observe aujourd'hui sont avant tout politiques, mais elles sont aussi alimentées par des inquiétudes sociales et économiques.
Notamment par la jeunesse.
Oui, une partie de la population hongkongaise s'est inquiétée de l'afflux massif de touristes chinois, qui, par exemple, avaient accès à des services médicaux ou qui investissent dans l'immobilier faisant augmenter, là c'est pas le cas de tourisme, mais le cas d'investissement chinois faisant augmenter aussi le prix de l'immobilier dans une situation où Hong Kong déjà est très difficile. Pour le logement des jeunes. Donc, et puis, bien sûr, il y a aussi des inquiétudes non seulement sur l'économie hongkongaise, mais sur l'économie de Chine continentale. Donc, à un moment, La croissance chinoise, comme on savait avant l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, était à deux chiffres. Aujourd'hui, elle se rapproche davantage de 6%. Donc, le rêve chinois que le Parti communiste chinois essaye de promouvoir ne fait pas rêver les jeunes hongkongais. En tout cas, la majorité d'entre eux, selon les chiffres de l'Université de Hong Kong, un dernier sondage qui a été réalisé en 2019, disait que 71% des hongkongais ne se sentaient pas fiers d'être citoyens chinois.
Donc, il y a c'est les États-Unis qui les font rêver. Là, j'ai entendu, il y a une manifestation qui s'est terminée par l'hymne américain.
C'est la France qui fait rêver les
Hongkongais. Ah oui, bien
sûr.
Ce qui
est important aussi de noter, c'est qu'il y a quand même des tensions sociales au sein même de Hong Kong avec des diversités de points de vue assez fortes entre générations. Il y a aussi eu des pro-Pékin à Hong Kong. La mobilisation est majoritairement celle qui s'oppose à ce traité d'extradition, qui s'inquiète pour la démocratie. Mais il y a des différences générationnelles qui créent des tensions et aussi avec des questionnements sur l'implication de la mafia dans certains règlements. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si les situations sont très différentes à Hong Kong et à Taïwan, les tensions sociales, intergénérationnelles et historiques se manifestent avec Pékin, mais aussi à l'intérieur même des sociétés.
Oui, mais manifestement, quand même, 95%, je crois, des protestataires seraient des étudiants issus de la classe moyenne, c'est-à-dire celle qui a le plus de mal à se loger, pense que, par exemple, le prix du mètre carré en 15 ans à Hong Kong a été multiplié par 400. C'est cette population-là, donc les classes moyennes, qui est aujourd'hui dans la rue, Sonny Chan.
Ben oui, il faut toujours attendre les soldes pour faire des shopping, c'est très agaçant. Et il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux que je trouve fort intéressante. C'est un des anciens présidents chinois, j'ai oublié le nom parce qu'ils se ressemblent tous, qui avait un discours extrêmement modéré sur Hong Kong. Il a dit que si il y a l'échec de Hong Kong dans cette transition, ça sera de toute façon la responsabilité de la Chine. Donc je voudrais quand même souligner que les Hongkongais ne sont pas aveuglément contre le gouvernement chinois. Le parti, évidemment, de Pékin ne change pas, mais il y a quand même ces nuances. Et là, on assiste quand même à un chapitre extrêmement rigide de la Chine.
Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas dans l'ADN d'Hong Kong cette idée que ça va s'arrêter? Avant 97, il y avait l'idée « ça va s'arrêter en 97 ». Aujourd'hui, il y a l'idée « en 2037, ça va s'arrêter ». Est-ce que les Hongkongais n'ont pas tendance à se projeter à l'extérieur de la Chine, à projeter leur avenir en dehors de Hong Kong? Est-ce que Hong Kong n'est pas, pour beaucoup d'entre eux, un peu une ville fantôme qu'ils aimeraient quitter?
Mais les Hongkongais, en fait, ont eu plusieurs vagues d'émigration. Moi, j'en fais partie.
Oui.
Seulement, dans les années 80, on a appris qu'on n'allait pas être éternellement décolonisés britanniques. On a eu très peur. Donc, il y a plein de gens qui sont allés dans les pays anglophones, Canada, Australie, etc., l'Angleterre. Et puis après, on a vu qu'en fait, chez les Blancs, il n'y a pas tant d'argent que ça. Donc, on est revenu. Et puis là, au fur et à mesure, on s'est rendu compte, mais quand même, en fait, chez les Blancs, il y a quand même un peu plus de liberté. Donc là, à nouveau, j'ai beaucoup d'amis qui sont en train de partir. Beaucoup, beaucoup. Surtout ceux qui ont des enfants parce qu'ils ne veulent pas voir leurs enfants laver du cerveau.
François Bougon.
Oui, parce qu'on vous parlait de la classe moyenne et de ces jeunes qui forment le gros des troupes aujourd'hui. Ceux qui peuvent partir, c'est ceux qui ont de l'argent. Les autres, leur avenir...
Pas la classe moyenne.
Et c'est pour ça qu'ils se battent. Leur avenir, il est à Hong Kong. Et la plupart d'entre eux, ils vivent dans le système de public house estate, c'est-à-dire des parcs immobiliers qui est subventionné en grande partie par les autorités locales. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent partir. Et ça s'est passé avant 97, notamment au Canada ou en France ou ailleurs. Mais ces jeunes, aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité financière de s'acheter des appartements à Vancouver ou à Toronto. Leur avenir, il est à Hong Kong. C'est pour ça qu'ils se battent sur le sol hongkongais.
Moi, je vois cette phrase que j'ai lue dans un article qui dit depuis une jeune chinoise qui dit depuis 1997, je ne vois qu'une lente destruction de notre système et la diminution continue de nos libertés. C'est quand même très impressionnant. Est-ce qu'au fond, la démocratie, c'est pas le cadet des soucis de la Chine populaire aujourd'hui, Gilles Fontaine?
Ah, je ne pense pas que ce soit leur principale préoccupation, c'est sûr.
C'est ce que vous montrez dans votre livre « Il est midi à Pékin ».
Voilà,
vous nous montrez une Chine conquérante, présente aux quatre coins de la planète. C'est tout à fait impressionnant. C'est étendant ses tentacules dans tous les domaines, y compris des domaines comme le soft power. On n'imagine pas qu'elle ait une telle influence, mais complètement indifférente à l'idée de démocratie. Finalement, Hong Kong avec ou sans presse libre, ça leur apporte peu.
C'est un livre qu'on avait eu l'idée d'écrire avec Eric Scholl, qui dirige aujourd'hui la rédaction de l'Express. Eric Scholl était correspondant à Hong Kong pendant plusieurs années, et notamment au moment de la rétrocession. Donc c'est à la fois un endroit et une population qu'il connaît bien. Moi-même, j'étais beaucoup à cette époque en reportage en Chine, au début des années 2000. Et en fait, l'histoire a été beaucoup racontée. La Chine s'est finalement réveillée après, avec les nouvelles directions données par Deng Xiaoping dès la fin des années 80. Tout ça s'est manifesté de façon extrêmement brutale et violente au début du 21e siècle. Mais ce qu'on voulait démontrer dans ce livre, c'était que l'empreinte chinoise était déjà à l'époque, donc c'était un livre qui a mis quelques années à mûrir, l'empreinte chinoise était déjà là un peu partout dans le monde. Et effectivement, notre idée, c'est de raconter des histoires fuseau horaire par fuseau horaire, où on raconte comment au plan militaire, culturel, économique évidemment et financier, au plan du tourisme, il se passe des choses absolument partout dans le monde, y compris sur des petits îlots au milieu du Pacifique.
C'est le nouveau titre des Américains de Black Keys dans le NRV. Ça vous plaît, Christophe Bonseiller ?
C'est pas mal.
Quand je vous demande, 12. C'est que je suis sûr que ça peut marcher.
Oui, tout à fait.
Sinon, je m'abstiens.
Merci.
Shenzhen est aujourd'hui la ville la plus riche de Chine.
Un ancien port de pêche devenu en 40 ans, la Silicon Valley chinoise.
Le nouveau rendez-vous ?
Les capitaux étrangers coulent à flot et de nouvelles entreprises s'installent chaque semaine.
C'est l'endroit idéal pour bâtir des startups.
Shenzhen est en train de devenir un hub de talents internationaux.
Et maintenant, Shenzhen découvre les problèmes des grandes villes, comme la démographie ou l'environnement. Mais la croissance à tout prix ne doit pas nous faire oublier l'humain.
Laurent Goumard.
Mais à quel jeu jouent les Chinois avec Macao et avec Shenzhen, donc présenté, on vient bien de le comprendre, comme la nouvelle Silicon Valley de la Chine. Avant de parler de Shenzhen, pourquoi Macao ne bouge pas? Parce que Macao est juste à côté. Les manifestations se succèdent à Hong Kong et à Macao, on ne bouge pas.
Vous avez un système Bougon. Complètement différent, vous avez beaucoup moins d'habitants et puis complètement contrôlé. les habitants de Macao profitent à fond de l'industrie des jeux, en fait.
Du casino, qui arrose tout le monde, en fait.
Donc, ils reçoivent des subsides régulières des autorités locales. Donc, en fait, c'est une société qui est beaucoup plus calme, d'une certaine manière.
Par l'argent des casinos.
Voilà, d'accord. Si, quand même, il y a des gens de Macao qui sont allés manifester, etc. Mais ça reste...
Mais à Macao, il y a une presse libre ? Par exemple,
elle a été libre. Macao a été complète. Macao, c'est Hong Kong sans l'état de droit, en fait. Je suis désolé, mais regardez ce qui s'est
comme
passé
Shenzhen,
dans les colonies portugaises, dans les colonies espagnoles. La décolonisation n'a jamais abouti à des régimes démocratiques. La différence à Hong Kong, c'est que vous avez eu l'état de droit, la common law, l'esprit britannique, une justice indépendante, etc. Vous n'avez pas à Macao.
Elle Sekman, alors qu'est-ce qui se passe du côté de Shenzhen pour qu'on en parle aujourd'hui comme d'un nouvel Hong Kong sans les problèmes ?
Alors, je ne sais pas qui en parle comme ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est du territoire chinois.
C'est Hong Kong 2.0.
Ce qui est sûr, c'est que la situation est très différente. C'est vrai que c'est à quelques kilomètres, voilà, voisin, mais c'est sur territoire chinois. Alors, un constat vraiment qui peut-être...
Mais les entreprises étrangères, elles vont à Shenzhen ou elles restent à Hong Kong aujourd'hui ?
Ça dépend pour quel type d'entreprise. Le secteur financier, ça reste plus intéressant à Hong Kong. Le secteur des nouvelles technologies, c'est plus intéressant à Shenzhen. En tout cas, il y a une concentration de high-tech, de la Silicon Valley chinoise à Shenzhen, avec des grandes entreprises de la reconnaissance faciale, de l'intelligence artificielle, des smartphones, etc. Donc, très, très, très dense à Shenzhen.
Vous pensez qu'un jour, Shenzhen va détrôner Hong Kong ?
Bon, c'est des créneaux de business
très différents
pour l'instant.
C'est l'objectif du gouvernement, ça, Gilles Fontaine,
non,
par exemple
excusez-moi. L'objectif du gouvernement, c'est plutôt d'harmoniser le territoire au maximum. Mais l'harmonisation au niveau politique et juridique. Économiquement, c'est peut-être dans l'intérêt de Pékin d'avoir des niches sur certaines villes, et pas forcément financiariser Shenzhen et technologiser Hong Kong.
Gilles Fontaine.
Il faut rappeler aussi, juste pour revenir deux secondes sur Macao, qu'il y a un pont aujourd'hui aussi qui relie les. Donc c'est plus tout à fait la même situation non plus. Avant, on était dans deux univers totalement différents. Aujourd'hui, on y arrive beaucoup plus rapidement. Par rapport à Shenzhen, c'est vrai que c'est pas du tout. On n'est pas du tout dans le même le même lieu, pas avec la même vocation. Hong Kong reste une place financière incontournable, en tout cas pour les introductions en bourse, par exemple, d'entreprises chinoises. C'est là que ça se fait. Shenzhen, dès le départ, a été imaginé par les autorités chinoises. Quand on parle de Silicon Valley, c'est un petit peu, le terme était peut-être un petit peu mal choisi, parce qu'au départ, c'était surtout la plus grande, c'était l'usine du monde, telle qu'on en parlait à l'époque, c'est-à-dire concevoir des usines absolument gigantesques et pouvoir servir toutes les compagnies occidentales, notamment américaines, en fonction de leurs besoins, que ce soit des lave-linges, des smartphones n'existaient peut-être pas encore à l'époque, des téléphones mobiles, tout ce que l'Europe a besoin de concevoir. Ça reste une place industrielle importante et de plus en plus importante, mais Pékin, avec une stratégie qui pousse aussi effectivement à, en tout cas, installer un petit peu à faire rentrer ce pays dans le 20e siècle et puis le 21e siècle, parce que la Chine, encore au début des années 90, c'était difficile de voyager, il n'y avait pas d'aéroport, il n'y avait pas de voie ferrée, etc. Aujourd'hui, l'industrialisation du pays s'est faite aussi dans des zones un peu plus reculées, dans l'Ouest. Bon, on voit ce qui se passe dans le Xinjiang, qui était l'endroit où aujourd'hui sont installées les populations musulmanes et qui sont de plus en plus embêtées par Pékin. On voit que là aussi, il y a une forme d'industrialisation qui est en train de se faire. Évidemment, l'avantage de Shenzhen, c'est qu'ils ne sont pas loin de la mer. Donc, c'est beaucoup plus facile à envoyer les...
Et puis, de toute façon, rien à voir entre Shenzhen et Hong Kong, puisque même au niveau culturel, au niveau de la langue, on parle mandarin, je crois, c'est ça, à Shenzhen. Et
Shenzhen, c'est beaucoup le cantonais. Hein. Ouais. Oui. Mais en fait, il n'y a pas que l'argent, parce que les Chinois, même s'ils sont fortunés, ils viennent quand même à Hong Kong pour acheter le poudre de lait. Ils viennent se soigner dans nos hôpitaux à Hong Kong. Donc, c'est que même s'ils ont de l'argent, ils ne font pas confiance à leur propre système. Et c'est ça qui fait la spécialité de Hong Kong.
Et pour autant, les manifestations sont plutôt mal vues du point de vue des Chinois et même d'ailleurs des habitants de Shenzhen qui regardent ça avec une sorte de, pas de terreur, mais d'absence de neutralité même dans les propos qu'ils peuvent tenir en parlant d'enfants gâtés.
Shenzhen, là, vous êtes en Chine, il n'y a plus de doute possible. Shenzhen n'existait pas, on l'a entendu dans le petit son tout à l'heure, il n'y avait rien à Shenzhen il y a 50 ans. La ville, elle est née de rien. On a créé une ville de 17 millions d'habitants avec des usines, des bureaux, des commerces, des centres commerciaux géants en quelques décennies.
Ça, c'est typiquement chinois.
Oui,
ça,
c'est typiquement chinois. Mais on l'a fait aux portes de Hong Kong.
Dicté par le business. Mais la question, moi, que je me pose quand on voit ce mouvement de Hong Kong, c'est est-ce que ça peut durer ou est-ce que ça va s'essouffler? Parce que les mouvements sociaux ont des pics où tout le monde en parle, il se passe des tas de choses. Et puis, s'il ne se passe rien, il y a un phénomène, comme on a vu avec les gilets jaunes, par exemple, d'un lent essoufflement. Est-ce que ça pourrait être le même scénario, François Bougon?
Pour l'instant, non. Enfin, les faits nous montrent que le mouvement ne s'essouffle pas, en fait. Pékin joue sur l'enlisement, ça c'est sûr. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les jeunes continuent à se mobiliser, qu'on continue à avoir des manifestations. Donc là, ils ont interdit la manifestation de dimanche.
Dimanche.
Et donc, on est clairement sur une stratégie non seulement d'enlisement, mais aussi de durcissement et de répression.
C'est-à-dire que si les gens descendent dans la rue, ça sera une émeute.
Ils sont arrêtés. S'ils se comportent de manière violente, ils sont considérés comme des émeutiers. Ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Donc en fait, on en revient toujours à ce qui s'était passé en 2014 au moment du mouvement des parapluies, c'est-à-dire une réponse policière et judiciaire, ce qui a provoqué les manifestations récentes. C'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas de leader? On disait il n'y a pas de leader dans ce mouvement-là. Il n'y a pas de leader parce que tous les leaders qui sont apparus au moment du mouvement des parapluies en 2014, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui en prison.
Ah oui.
Donc il y a une répression policière et judiciaire et c'est l'une des armes que vont utiliser les autorités de Hong Kong dans les médias.
Alice Ekman, qu'est-ce qui va véritablement se passer en 47?
Alors, personne ne sait, justement. On ne sait pas ce qui va se passer en 2047. Et c'est cet inconnu sur l'avenir du statut de Hong Kong qui inquiète. Parce qu'en fait, il n'est pas dit qu'après 47, Hong Kong devienne de statut harmonisé chinois, en fait. Non, on ne sait pas ce qui va se passer réellement après 2047. Donc, c'est peut-être cet inconnu qui est particulièrement inquiétant. Bon, je suis d'accord pour dire que les tensions sont de long terme, pour deux raisons. Parce que... s'agrègent donc ces revendications au fur et à mesure des mobilisations. C'est-à-dire, si, et on ne sait pas, c'est une hypothèse, si ces mobilisations-là venaient à réduire, s'essouffler, mais je ne pense pas compte tenu des revendications très fortes, dans tous les cas, elles pourraient revenir dans un an, dans deux ans, dans trois ans, même démultipliées avec une longue liste de revendications qui sont toujours les mêmes puisque les concessions sont attendues et de la part venant d'une part significative de la population taïwanaise. Donc, sur le mode d'élection du chef de l'exécutif, sur le statut juridique particulier de Hong Kong, sur l'amnistie qui devrait être, selon les manifestants, accordée aux jeunes emprisonnés, sur aussi le respect de l'émergence de partis politiques dissidents à Hong Kong. Enfin, vous voyez, et aussi aussi une préservation d'une liberté culturelle, journalistique, puisqu'il y a aussi eu le cas des arrestations des libraires, donc de quatre libraires qui avaient... qui avait diffusé des livres liés à Xi Jinping, qui étaient interdits en Chine. Donc il y a là une longue liste de revendications qui s'allonge donc, et de plus en plus cette internationalisation des tensions qui est réelle. Je pense que les tensions Chine-États-Unis sont de très long terme. Vraiment de très long terme. Là, on n'avait pas anticipé des tensions commerciales de si long terme. Les tensions ne sont pas que commerciales, elles sont géostratégiques. Avant tout, elles pesaient beaucoup sur Taïwan.
Ouais.
Parce que Washington et Pékin ont des positions diamétralement opposées sur Taïwan pour différentes raisons. Parce que par un traité, les États-Unis se doivent de soutenir, sont engagés à soutenir Taïwan en cas d'attaque. Parce que pour des raisons historiques, pour raisons datant de 1949, etc., je ne vais pas développer ici. Mais sur Taïwan, il y avait une cristallisation des tensions en Chine-États-Unis, sur la péninsule coréenne aussi. Puisque vis-à-vis de la Corée du Nord, Washington et Pékin ont des points de vue très très différents. On l'oublie souvent. Mais aujourd'hui, Hong Kong va de plus en plus, je pense, cristalliser les tensions sino-américaines. Et donc, c'est aussi une longue liste de points de tension entre Washington et Pékin qui va s'allonger. Et dans ce contexte-là, ce n'est pas uniquement des tensions sur des questions stratégiques particulières, c'est des questions entre systèmes politiques.
Quels sont les projets que vous menez, vous, à Hong Kong, Sonny Chan?
Trouver un mari.
Oui.
Et il faut savoir que la première communauté étrangère à Hong Kong, elle est française. Et j'ai beaucoup d'amis français à Hong Kong qui ont manifesté. Ça m'a énormément touché. Je pense que ce qui se passe à Hong Kong touche tout le monde. C'est une question de valeur commune. Et je repense souvent à 1988, après le massacre de Tiananmen. Au moment du défilé du 14 juillet, il y avait des dissidents chinois sur les Champs-Élysées. Et je pense que c'est aussi ces valeurs qui nous réunissent.
Alors, vous n'avez pas répondu à ma question.
Non, je suis un peu comme une politicienne.
Et pourtant, je suis un journaliste, donc je vous la repose. Est-ce que vous avez des projets qui, aujourd'hui, vu vos positions, sont difficiles à maintenir à Hong Kong?
Je peux risquer quelque chose, oui. Si jamais je ne pourrais plus ressortir de Hong Kong, etc., bon, vous m'enverrez une carte postale.
Avec des paillettes.
Voilà.
J'entends tout, Christophe. Tout. Non, mais moi, je repense à cette phrase qui figure dans le livre de Gilles Fontaine, Il est midi à Pékin. Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie. L'idée étant que les Chinois prennent leur temps, que les Chinois, effectivement. Mais que là, ils sont face, effectivement, à une opposition très forte. Parce que je crois que ce qui se passe à Hong Kong, c'est vrai, c'est quand même une opposition très organisée. On est assez loin de la désorganisation, par exemple, des Gilets jaunes en France. Il y a des groupes qui vraiment lutte pour une forme d'indépendance de Hong Kong, je crois. C'est peut-être ça, à terme, ce qui est l'objectif de certains manifestants. François Bougon, pas d'accord?
Non, je veux dire, en fait, il faut faire attention avec ça, parce que c'est ce qui est utilisé par le régime de Pékin pour discréditer les manifestants. En fait, ceux qui
vous faites vraiment avoir, hein, sur tous les coups.
Non, mais ceux qui revendiquent l'indépendance sont ultra minoritaires à Hong Kong. La plupart, après...
Est-ce que c'est pas une solution?
Non, je pense pas. Je pense que la plupart des Hongkongais, si vous leur posez la question, ils ont juste envie que leur système, dont ils profitent, ils ont envie que le suffrage universel qu'on leur a promis, ben voilà, qu'il soit mis en place. Donc en fait, ils ont pas envie d'indépendance. Ils ont envie peut-être de décider de leur sort, d'avoir leur mot à dire dans leurs affaires. Et c'est vrai que pour la Chine de Xi Jinping, permettre aux gens d'avoir leur mot à dire, c'est pas possible. On est dans un régime tellement autoritaire aujourd'hui en Chine que pour eux, pour Xi Jinping, Hong Kong, c'est une anomalie.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Pas véritablement, parce que l'émission continue. On va partir en live dans quelques instants avec Marion Guilbeault et ses invités.
All right, let's have a little rumble at the Ritz tonight.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Drôle de nom, je crois, le nom du groupe, Marion
oui,
Guilbeault.
Laurent, faire ou ne pas faire de la musique. Alors, je ne sais pas si Romain, Simon, Raphaël, les trois copains d'enfance réunis dans ce troupe, se sont longtemps posé la question, mais ce qui est sûr, c'est dès qu'ils se sont lancés, ils se sont lancés à fond, ils ne se sont plus arrêtés tout à fond. C'est comme ça qu'on fait du rock en France en 2019.
C'est un vrai troupe ou c'est un trio?
Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez cacher ce mystère.
Ah ouais, je vois, ils font un mystère, d'accord.
Voilà, il y a
bien.
Un mystère, laissez-vous faire. Faire a commencé à agir il y a 3 ans avec des morceaux enregistrés à l'arrache, des vidéos délirantes tournées pied au plancher avec comme mot d'ordre le « do it yourself ». Alors Faire n'attend rien, ni des labels, ni des tourneurs. Ils ont d'ailleurs créé leur propre structure, ça s'appelle Coq. Ils ont joué un peu partout, dans les bars, dans les écoles, dans les clubs. Ils postent leurs titres à peine sortis du four sur les internets. Tout ça, c'est très spontané, c'est parfois un peu chaotique, mais le savoir-faire de Faire commence à se savoir en-delà de l'underground. En bons enfants du rock, ils sont partis enregistrer à New York, ils se sont laissés dérivés jusqu'au Mexique. Ils en ont ramené des super boots et des super chansons aussi. Avant les vacances, moi j'avais craqué sur ce titre.
Au matin, je ne rentre pas ce soir. Tu sais bien qu'il n'est pas que les gens font des histoires. Au matin, je repense à tout ça. Je me dis qu'il se fait tard et qu'on mérite une autre histoire. T'as fait les cheveux longs, tu
Ça s'appelle Omarta et ça fait partie de cette EP 4 titres qui va sortir au mois d'octobre. C'est une vraie promesse de yéyé trash, d'autodérision, de guitare surf, d'audace, de réverb, de dandisme punk qui sont aussi stylés que leurs chansons. Et moi, je vais profiter d'avoir la présence quand même ce soir avec nous de la fashion police asiatique, Sonny Chan, pour lui faire valider leur look. Qu'est-ce que vous en pensez, Sonny?
Vous êtes d'accord avec les pattes d'Ève jaunes?
Moi, j'avoue que c'est audacieux, comme les Hongkongais.
Hein, entre Pablo Escobar et Burt Baccarat, quelque chose comme ça, non?
Oui,
moi,
absolument.
J'aime beaucoup leurs bijoux, personnellement.
Absolument. Moi, je préfère les musiciens sans vêtements.
Ah,
les musiciens à poil.
C'est la tendance
Les naturistes.
Hongkong.
Oui.
On a tellement plus rien à se mettre à Hong Kong quand on peut pas acheter du Chanel en solde qu'on est donc à poil quand on fait des concerts. Quel beau pays.
Il y a un terme en tout cas qui tourne pour qualifier la musique de fer, c'est celui de Gaulle, comme la Gaulle, wave. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, Romain, vous allez me répondre.
C'est de la musique française excitante,
ouais.
Inspirée par l'amour de la culture de nos grands-mères et jusqu'à la culture plus synthétique d'aujourd'hui. Notamment avec tous les synthés.
Mais c'est quoi la culture de votre grand-mère?
En matière de chansons, je parle.
Ah, d'accord. Je me demandais, qu'est-ce qu'il raconte? Très bien.
Allez, on se laisse faire avec fer. C'est à vous, messieurs.
Tous les jeux de mots sont bons, hein, Marion?
Romain et Raphaël au synthé, Simon à la guitare, s'extrait de leur nouvelle EP, 4 titres, et c'est attendu pour le 4 octobre sur leur propre label Coq. Et Fer sera en concert à la Boule Noire le 18 octobre. La prise de son ce soir est assurée par Clément Vuillet et Jérémy Guillon.
Et merci à nos invités, merci Sonny Chan, merci Alice Ekman. Je rappelle le livre La Chine dans le monde, c'est au CNRS édition. Gilles Fontaine, il est midi à Pékin, ça va sortir chez Fayard le 11 septembre prochain. Et François Bougon, La Chine sous contrôle, c'est au Seuil. Merci à tous les quatre. C'était le NRV, première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV La Suite Plus de France Inter. On se retrouve toutes et tous lundi au programme du NRV. Ce sera ça. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Et oui, et si demain on était tous populistes ? Rien que Christophe Bourseiller est partant, lui. Hein. Dossier populisme, donc, je vous invite à poser dès à présent vos questions, vos interrogations et vos analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. Je répète, 01 56 40 37 37.
Combien ?
On vous attend, on vous entend. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, la programmation, la préparation est assurée par Virginie Rouzic. Juste après le journal, c'est le NRV La Suite, dernier épisode ce soir de notre semaine France Inter Plus de Toni Morrison. Et ça peut pas faire de mal. Alors à tout de suite.
Rendez-vous.